Le journal Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. L'épuisement, la difficulté à conserver un emploi, sans même parler d'un petit peu de temps pour soi. La très délicate situation de ceux qui accompagnent quotidiennement leurs proches, malades, handicapés, privés d'autonomie. Comment mieux aider ces aidants? Reportage dans ce journal, alors que le gouvernement s'apprête à annoncer une série de mesures en ce sens. Et on en parle aussi avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, il s'agit de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Intervenez, dialoguez, témoignez vos questions. 01 45 24 7000, le standard est ouvert, ainsi que les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Not yet, toujours pas de Brexit en vue, et plutôt la perspective d'un nouveau report, au moins pour quelques jours, après le refus des députés britanniques d'adopter en accéléré l'accord négocié par leur Premier ministre. Dans l'actualité du jour également, la crainte d'une résurgence de l'État islamique après le retrait imposé aux Kurdes en Syrie. Un ancien mannequin ici, un militaire à la retraite par là, ou encore la maire d'un cadre du parti. Le Rassemblement National hausse toutes les investitures pour les municipales 2020. Les algues sargasses plaient des plages des Caraïbes, et puis un tout petit oiseau qui fait du bruit, beaucoup de bruit, vous l'entendrez.
France Inter.
Ils sont entre 8 et 11 millions aujourd'hui. Ils seront, nous serons, 1 sur 4 d'ici 2030 à devoir prendre en charge l'un de nos proches, malades, handicapés ou tout simplement plus autonomes. Les aidants, comme on les surnomme, sont au cœur d'une série de mesures annoncées ce matin par le gouvernement. Envisager notamment une indemnité de 43 euros par jour dans une limite de 3 mois maximum en cas de congé forcé pour s'occuper d'un proche. Mieux ? Sans doute. Suffisant ? Pas sûr. Surtout quand on sait que pour beaucoup, la fatigue est nerveuse, omniprésente, et que conserver un emploi, même à temps partiel, relève parfois de la gageure. Claire Chaudière.
À la fatigue s'ajoute souvent un véritable casse-tête quotidien. Mireille a 60 ans, un fils de 38 ans, déficient mental et un emploi du temps compliqué malgré son temps partiel, rythmé par les trajets, les heures de prise en charge et son métier de secrétaire.
Je peux pas m'absenter comme ça. Au bout d'un moment, on va me dire, écoutez, on va prendre quelqu'un d'autre. Quelquefois, je pars travailler, je suis déjà très fatiguée. C'est du surmenage. De temps en temps, j'aimerais bien qu'il puisse partir une semaine quelque part, quoi.
Mais trop peu de structures dédiées à ce droit au répit, pourtant inscrit dans la loi, existe à ce jour en France. Julien s'occupe, lui, de son frère, atteint d'une maladie rare et en fauteuil roulant.
C'est double travail. Une fois que la journée est terminée, il y a des fois, je suis tellement fatiguée que j'ai même plus la force de prendre ma propre douche, en fait.
Des aidants qui négligent leur propre santé et que le monde économique n'accompagne pas assez, martèle Virginie Guilagout, consultante en responsabilité sociétale des entreprises.
Ce sont des journées qui peuvent conduire au burn-out, des chiffres assez alarmants. 30% des proches aidants qui accompagnent des personnes qui ont Alzheimer meurent prématurément avant l'aider. Ça bouge extrêmement lentement.
Don de RTT, congés supplémentaires, la loi de 2015 est en fait rarement appliquée, confirme le secteur associatif. L'indemnité annoncée de ce congé est un début, mais un début seulement pour Bénédicte Cale de l'association France Handicap.
Qu'ils puissent avoir une reconnaissance aussi du fait qu'ils sont passés à temps partiel sur leur droit à la retraite après. C'est des choses comme ça qu'on attend.
Car un actif sur quatre pourrait avoir à endosser ce rôle d'aidant en 2030.
Il est 8h04, le Brexit, oui, mais une fois encore, pas à la date prévue.
C'était son mantra depuis son accession au poste de Premier ministre britannique. C'est un pari que l'on peut désormais considérer comme perdu pour Boris Johnson. Non, le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Délai trop juste, puisque les députés ont refusé hier d'examiner en accéléré l'accord de Brexit trouvé la semaine dernière à Bruxelles. Ces mêmes députés qui, sur le principe, ont cependant voté en faveur de la transposition de cet accord dans la législation britannique. Alors, Boris Johnson jouait encore les optimistes cette nuit à la Chambre des communes.
I will speak to EU member states about
Je vais demander aux responsables européens quelles sont leurs intentions. Nous continuons de penser que nous ne devrions pas demander de report. Nous devrions quitter l'Union européenne le 31 octobre. Et c'est ce que je dirais aux responsables européens. Mais d'une manière ou d'une autre, nous quitterons l'Union européenne avec cet accord puisque le Parlement vient de dire qu'il y est favorable.
La balle est donc désormais à nouveau dans le camp européen, Bruxelles, qui pourrait accepter un report dit technique du Brexit, juste le temps de laisser aux élus britanniques la possibilité d'achever leur examen du texte. À Strasbourg, Angélique Bouin.
La partie de ping-pong continue après avoir déjà reporté deux fois la date du Brexit, de fin mars à mi-avril, puis d'avril à fin octobre. Voilà donc les 27 États membres invités à nouveau à se prononcer. Mais la donne a changé. S'il s'agit de laisser aux députés un peu de temps pour finir d'étudier un accord par ailleurs validé, nul doute qu'il sera accordé. Nous sommes favorables à un report de quelques jours afin que la procédure parlementaire s'achève à Londres, a confirmé dans la soirée la secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie Montchalin. Même tonalité à Berlin, où cette hypothèse d'un sursis dit technique avait déjà été officiellement actée. Mais si le marathon parlementaire londonien venait à faire dérailler le processus de ratification, quelle position adopteraient les Européens ? Tout dépend de la suite du feuilleton. De nouvelles élections ou un nouveau référendum ouvriraient sans doute la voie à un report plus long. Mais une demande d'extension destinée à gagner du temps ou à rediscuter l'accord est exclue par la France. Or, la décision doit être prise à l'unanimité. À Strasbourg, Angélique Boin, France Inter.
C'est désormais la grève générale en Bolivie, l'affrontement avec les forces de l'ordre et l'incendie du bureau de vote, le revirement dans l'annonce des résultats de la présidentielle ne passe pas. Alors qu'un deuxième tour entre Evo Morales et Carlos Mesa a d'abord été annoncé, le président sortant est maintenant donné gagnant dès le premier tour avec plus de 10 points d'avance. Résultat, suspicion de fraude et contestation massive. Les Kurdes sommaient de se retirer d'une bande de 30 km au nord de la Syrie, ça c'est chose faite désormais, mais aussi bien en deçà de la frontière turque. Modalité de l'accord en 10 points, pour le moins humiliant pour les forces kurdes, négocié hier à Sochi entre les présidents Poutine et Erdogan. Le chef de l'État turc, qui en réponse annonce la fin officielle de son offensive militaire. Et puis, côté force américaine, le retrait de Syrie s'achève lui aussi. Les soldats resteront temporairement positionnés en Irak, selon une annonce du ministre américain de la Défense. Et donc, tout cela laisse le champ plutôt libre aux djihadistes de Daesh, dont l'objectif désormais est de faire évacuer un maximum de leurs prisonniers des camps kurdes. C'est déjà le cas pour 500 d'entre eux, selon la Russie. Christian Chenou.
Depuis la perte de leur dernier bastion à Baghouz, à la frontière syro-irakienne au printemps dernier, les djihadistes sont entrés en clandestinité. Ils se cachent dans le désert ou les villages de l'Euphrate, prêts à ressurgir dans une stratégie mûrement réfléchie, estime Wassim Nasr, journaliste de France 24, spécialiste de Daesh.
On ne peut pas dire qu'ils se réorganisent. Il faut imaginer ce qu'ils sont déjà organisés. Donc déjà organisés en attendant le chaos qui s'installe. Mais l'infrastructure, la logistique, etc., etc., tout est déjà en place.
Les djihadistes comptent bien profiter de la confusion actuelle qui règne dans l'Est syrien pour frapper tous leurs ennemis, poursuit Wassim Nasr.
Son retour à la surface se manifeste par une accentuation des opérations, que ce soit au nord de l'Euphrate, en termes d'attentats, assassinats, opérations ponctuelles, bombardements, etc., contre les forces, que ce soit du YPG ou forces démocratiques syriennes, ou même la base américaine de Shadadi qu'ils ont bombardé dernièrement, ou des opérations beaucoup plus élaborées au sud de l'Euphrate, donc contre l'armée syrienne.
Dans cette stratégie de harcèlement, l'un des objectifs des hommes de Daesh vise à faire évader leurs partisans, prisonniers des Kurdes, comme l'a exhorté le mois dernier Aboubakr el-Baghdadi, leur chef toujours en fuite.
Il est 8h08, les députés au chevet des hôpitaux hier.
Budget hospitalier débattu à l'Assemblée dans le cadre du projet de loi de la sécurité sociale pour l'année prochaine, la Sécu, dont le déficit est estimé désormais à 5,4 milliards d'euros pour cette année, car les députés ont voté cette nuit contre la compensation des mesures dites gilets jaunes, en contradiction d'ailleurs avec les principes posés par la loi Veil de 94. Certains députés, y compris dans la majorité, réclament donc de nouveaux crédits pour l'hôpital public, dont les urgences crient toujours au manque de moyens, et alors que deux journées de mobilisation sont prévues dans les prochaines semaines. Delphine Simon.
Ce budget de la Sécu, c'est un simulacre de réponse à la crise des urgences, affirme le communiste Alain Brunel, revêtu d'une blouse blanche sous son écharpe tricolore avant le débat.
Les urgences, ils réclament 10 000 personnes en plus. Vous dites non. Il y a un cri d'alerte, mais vous répondez pas. Et les moyens financiers, on peut les trouver. Et on les a, c'est parce que vous ne voulez pas les donner.
L'hôpital brûle, affirme le PS, qui présente un plan d'urgence. Même dans la majorité, la question divise. La marcheuse Delphine Bagary propose de transférer 1 milliard d'euros vers les hôpitaux.
Il va falloir qu'on puisse financer l'hôpital d'une façon ou d'une autre. Moi, j'essaye de la compenser en disant on va peut-être prendre sur le budget de la ville pour me mettre sur l'hôpital parce que l'hôpital a besoin.
Son amendement, rejeté en commission, elle va le redéposer en séance avec le soutien d'une dizaine d'élus macronistes. Consciente du malaise, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, temporise.
Oui, l'hôpital public est en grande difficulté. Je ne doute pas que nos échanges seront largement marqués par ce sujet. Cela est légitime parce que l'hôpital est un trésor national.
La ministre de la Santé promet des annonces dans les semaines à venir, mais si l'exécutif ne desserre pas l'étau financier, il faut s'attendre à des accidents de vote en séance, prévient le rapporteur du budget, Olivier Véran.
Ce sera dans 5 mois, jour pour jour, la nouvelle carte des maires de France. Nous serons au lendemain du deuxième tour des municipales, un scrutin pour lequel les politologues prévoient une nouvelle vague bleu marine, particulièrement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Fort de ces estimations, le Rassemblement national investit donc des candidats à tout va. Et certains, c'est une information France Inter, affichent d'ailleurs des profils un peu surprenants. Maxence Lambrecq.
Il y a d'abord cet ancien mannequin originaire de Marseille, candidat à Paris en 2014, investi aujourd'hui à Lens car il est employé de la mairie d'Hénin-Beaumont et Steve Briouat choisit ses fidèles, au point d'envoyer sa propre mère à Noyelles-Godault comme une voisine, ou de lancer dans la circonscription de Marine Le Pen à Carvin un jeune de 23 ans, candidat jusqu'ici à Nantes, en Loire-Atlantique. Dans le viseur du RN, à côté, il y a aussi Calais, et là débarque un ancien militaire breton, devenu assistant parlementaire du RN. Il a été préféré à un fidèle militant calaisien. Dans le Nord, à Maubeuge, arrive un conseiller régional des Pays de la Loire, récemment encore patron de la Fédération du Maine-et-Loire. Pourquoi ? Parce qu'il a été le collaborateur du député Sébastien Chenu, qui a la main sur les investitures dans le Nord et qui a lui-même réussi son parachutage en 2017, comme Marine Le Pen avant lui. Vous voyez, on ne s'oppose pas à toutes les migrations, plaisante un cadre, mais ce tableau vient quand même interroger le travail d'implantation, de formation dans ce qui devait être la pépinière du parti.
Après Mayotte et l'immigration clandestine hier, l'île des Glorieuses et son incroyable biodiversité pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Biodiversité mais aussi richesse en hydrocarbures pour cet îlot de l'océan Indien que la France se dispute avec Madagascar et sur lequel le chef de l'État entend donc marquer son territoire. Sur les plages des Caraïbes, cette fois, c'est l'invasion depuis plusieurs années déjà des sargasses, ces algues brunes dont la prolifération est accélérée par le réchauffement climatique qui perturbe tant la biodiversité que le tourisme, pas très carte postale tout cela. Alors, pour tenter de trouver un remède, une conférence internationale s'ouvre aujourd'hui en Guadeloupe. Le Premier ministre Édouard Philippe a prévu de s'y rendre, car la question est devenue cruciale pour les Antilles, notamment. Célia Kiré.
Lorsque ces algues s'échouent de façon massive sur les plages, elles se décomposent et deviennent toxiques. Problèmes de santé publique, pollution, mauvaise image pour le tourisme, ce phénomène a des conséquences désastreuses pour des îles comme la Guadeloupe. Pour Frédéric Ménard, spécialiste du sujet à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, la principale solution est de mieux prévoir ces invasions de sargasses pour pouvoir par exemple les bloquer au large.
On peut essayer d'anticiper les années où il pourrait y avoir des échouages massifs de sargasses dans les différents endroits, notamment dans les îles de la Caraïbe. Pour cela, développer des outils performants en matière de télédétection, donc d'images satellitales, pour essayer de prévoir l'ampleur du phénomène d'abord à grande échelle et ensuite à une échelle plus fine au niveau des côtes. Et éventuellement, avant qu'elles ne s'échouent, essayer de trouver des moyens, soit pour en ramasser une partie, soit éventuellement pour barrer l'accès aux plages que l'on veut préserver.
Autre solution, ramasser ces algues pour les valoriser en les transformant en biocarburant ou même en matériaux de construction. Cette idée a été proposée par le Mexique. La recherche sur le sujet avance. En tout cas, selon ce scientifique, les îles des Caraïbes sont obligées désormais d'apprendre à vivre avec ce fléau. Le phénomène paraît difficile à endiguer.
Le déluge, l'équivalent de 2 mois de pluie tombée en 3 heures dans les Pyrénées-Orientales. Le département est toujours placé en vigilance orange aux pluies et inondations par Météo France. Stella, habitante de Perpignan, a même assisté cette nuit au passage d'une tornade.
Vers les 3h30, 4h du matin, on a commencé à entendre un bruit vraiment assourdissant. Donc on s'est vite levé, mon compagnon et moi, pour aller voir un peu ce qui se passait. Et là, on a vu tout voler, les éclairs. On s'est dit vraiment qu'il y a une mini-tornade qui est en train de s'abattre chez nous, quoi. Chez les voisins, il y a eu le plafond qui s'est levé un petit peu partout. La toiture s'est envolée aussi. Et là, il n'y a même pas un quart d'heure, on a dû appeler les pompiers pour qu'ils puissent faire une intervention. Parce que j'ai le plafond de chez moi qui s'est effondré carrément.
L'alerte Météo France concerne aussi 8 autres départements du sud de l'Hexagone, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ayant rejoint l'Hérault ou encore l'Aude, avec des dégâts matériels importants, un trafic très perturbé, des évacuations en cours. Dans l'Hérault ou l'Aude, on craint également un risque de submersion. La mort hier par euthanasie de l'athlète paralympique belge Marieke Verfort, médaille d'or du 100 mètres en fauteuil roulant aux Jeux Olympiques de Londres, championne du monde en 2006 de paratriathlon. Elle avait annoncé il y a 3 ans, juste juste avant les JO de Rio, avoir pris ses dispositions en faveur d'une euthanasie si ses souffrances liées à une paralysie rare des jambes devenaient trop importantes. Marie Kuefer-Fort avait 40 ans. Tout petit et pourtant si bruyant, mignon tout plein sauf quand il crie. Et non, je ne vous parle pas de nouveau-né, mais de l'araponga blanc, oiseau d'Amazonie consacré volatile le plus bruyant au monde, selon une étude sonomètre à l'appui du magazine Current Biology. Mais rassurez-vous, ce déferlement de décibels a une très bonne cause, l'amour. Béatrice Duguay.
Qui imagine que du gosier de ce petit oiseau ravissant, tout blanc, gros comme une tourterelle, sort un son aussi puissant, industriel et métallique ? Désagréable, hein, mais c'est qu'il a besoin de se faire entendre dans ces montagnes d'Amazonie brésilienne. En fait, là où d'autres oiseaux font la roue, mettent leur plumage en valeur ou chantent mélodieusement, celui-là fait la cour en hurlant sa sérénade à la face des femelles convoitées. Il commence par chanter la première note vers l'extérieur. Avant de se tourner de manière assez théâtrale vers la prétendante, il se gonfle d'air comme une cornemuse, ouvre son bec et... plus de 120 décibels envoyés, l'équivalent d'un marteau-piqueur, le seuil de douleur pour nos oreilles. Aïe ! Pour s'approcher et juger leur mal, les petites femelles grises et vertes doivent manifestement sevrer les tympans, à moins que les boules-caisses existent pour les oiseaux.
Voilà, la raponga blanc, c'est à retrouver en son, ou peut-être plutôt en image,
oui,
sur franceinter.fr.
Merci Charlotte Piret.